C'est l'histoire d'un homme. Il s'appelait Jean. Jean était prêtre. Autrefois, on disait curé. Monsieur le curé. Jean était monsieur le curé d'un petit village auprès de Bayeux. Il avait deux passions dans la vie. La passion de l'Église et la passion des histoires. Père Jean adorait les histoires, les légendes populaires. Parmi toutes celles qu'il connaissait, il préférait celle de l'Orne, son pays natal. Père Jean rêvait de retourner dans l'Orne. Un jour, il apprend que la paroisse d'Ocagne, tout près de la ville d'Argentan, cherche un nouveau curé. Il s'empresse d'écrire à l'évêque de Bayeux et à l'évêque de Cé. Trois semaines plus tard, il reçoit une réponse positive. À la rentrée du mois de septembre, Père Jean s'installe à Ocagne. À peine il est installé, il se renseigne des histoires locales. Il retrouve ses vieux livres et il découvre quelque chose d'étrange. Il apprend qu'à Ocagne, un trésor a été caché par les Anglais quand ils se sont sauvés après la défaite de la guerre de Cent Ans. À bien lire, il apprend que si le trésor n'a pas été trouvé dans les 100 ans après avoir été caché, il appartient au diable. Il continue ses recherches. Il découvre que celui qui a la chance de trouver le trésor, pour s'en défaire du diable, doit, dans un premier temps, laver le trésor à l'eau bénite. Jean se dit, moi je suis curé, ce n'est pas très compliqué, de l'eau bénite j'en ai. Un peu plus loin, il découvre que celui qui trouve le trésor ne doit pas le quitter des yeux du moment où il l'a trouvé jusqu'à ce qu'il l'a ramené chez lui. Jean se dit, ce n'est pas très compliqué, je ne suis pas aveugle, je ne le quitterai pas des yeux. Il apprend que celui qui trouve le trésor doit dire, le dimanche qui suit, une messe à l'envers. Jean rigole. Il se dit, ah, mais moi je suis curé, je sais parfaitement dire la messe à l'endroit, je saurai la dire à l'envers. Par contre, à force de rechercher, il découvre aussi que celui qui trouve le trésor mourra dans l'année. Jean s'en inquiète. Il se demande si tout ce qu'il lit est vrai. Et puis en réfléchissant, il a tellement envie de rencontrer le diable en personne qu'il décide d'aller chercher ce trésor. Pour ce faire, il se fait inviter chez les gens du pays d'Ocagne. Le premier dimanche, il est à la table du maire. Le repas se passe bien. Au moment du café, il s'adresse au maire et lui demande si, dans le pays, il n'y a pas quelques histoires locales, des histoires du peuple, des légendes. Le maire s'étonne. Il le regarde et lui répond, « Oh, vous savez, mon père, j'ai pas beaucoup de temps en tant que maire. En tout cas, certainement pas le temps d'aller mettre mon nez dans toutes ces histoires. Non, je ne peux rien vous dire. » Le dimanche suivant, Père Jean est invité au château de Cuy, chez le prince et la princesse de Broglie. La table est magnifique, il y a d'autres invités. Le Père Jean, à la fin du repas, repose la même question qu'il avait posée au maire. « Dites-moi, Seigneur, connaissez-vous des histoires qui se raconteraient dans le pays, des légendes ?» Le prince de Broglie regarde le père Jean un peu étonné et se met à rire en lui répondant « Oh, vous savez, nous, les trésors, ça fait longtemps que nous les avons trouvés, nous n'en avons plus besoin, et les histoires du peuple sont les histoires du peuple, nous avons d'autres récits plus intelligents. » À nous mettre sous les yeux et sous les oreilles. tant je ne connais pas les histoires du pays. Le père Jean, le dimanche suivant, se fait inviter à la ferme de la Boise. Quand il arrive, il y a les enfants qui viennent le saluer. Le déjeuner est de bonne humeur. À la fin du repas, après le café, il a le droit à la goutte. À ce moment-là, Jean leur pose la question. « Dites-moi, chers amis, est-ce que par hasard vous seriez au courant de quelques histoires légendes locales ?»« Oh, mon père !» dit le fermier. « Bien sûr qu'il y en a. Mais vous savez, il faut se méfier de ces histoires. Ah oui. Il y a bien l'histoire du trésor. Ouais. On dit que c'est les Anglais qui l'ont caché quelque part. Mais vous savez, mon père... On dit aussi que celui qui voudra mettre son nez dans cette histoire, il aura affaire au diable. Alors autant vous dire que nous, on a assez de soucis comme ça pour s'en mêler avec des histoires avec le diable. Vous ne pouvez pas s'en occuper. Le père Jean, intéressé, le regarde et lui demande « Mais avez-vous quelques informations sur l'endroit où pourrait être caché ce trésor ?»« Ce trésor ?»« Oh, bien sûr, mon père. Tout le monde le sait. On dit que le trésor, il est caché sur le chemin qui va vers Montabar. » Vers Pominville, dans le fossé. Le fossé au trésor, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a d'autres qui disent qu'il est plus haut, au bois des épines. Oui. Après la ferme de Beaumont, tout au bout. Ah. Si vous avez envie de chercher, vous avez de quoi, mon père. Mais ce sera sans nous. Le père Jean remercie le fermier. Il rentre au presbytère. Il est content. Il a un indice de taille, l'endroit où se trouverait caché le trésor. Pendant plusieurs jours, il réfléchit à comment s'y prendre. Il se trouve une brouette, une pioche, une pelle. Il regarde le calendrier lunaire et choisit un soir où la lune est noire, afin de ne pas être repéré. Le soir arrive. Il sort sa brouette, sa pioche, sa pelle. Il met son manteau. Il fait frais. Il attend 23 heures. Il quitte le presbytère. Il remonte le chemin. Il arrive au croisement. Il continue, il traverse le village. Il arrive au calvaire, la direction de Pominville. Il marche un bon moment, quand tout à coup, il entend les cloches. Les cloches de l'église de Pominville. Pominville, comme on disait autrefois. Il s'arrête. Il se demande qui peut sonner les cloches à cette heure-là. Il pense au diable. Il regarde autour de lui. Il entend la cloche comme un signe. Il se dit, si ça se trouve, la cloche me dit que c'est là qu'il est le trésor. Il pose sa brouette. Il prend la pioche, il commence à creuser dans le fossé. À peine il a commencé à creuser, il entend « ding ». Il déblaye avec sa pelle et il trouve les trois cloches d'or. Elles sont magnifiques. Tout agité, tout essoufflé, il attrape la première, il essaie de la soulever, elle est lourde. Il tire, il tire, il tire, il l'arrache du sol, il la pose sur sa brouette. À son poids, il comprend aussitôt qu'il ne pourra pas prendre les trois cloches d'un coup, il devra faire trois voyages. Il laisse sa pioche et sa pelle dans le fossé. Il attrape les deux manches de la brouette. Il prend la direction du presbytère. La cloche est si lourde, voilà que la brouette l'emmène à droite, l'emmène à gauche, l'emmène à droite, l'emmène à gauche. Il fait à peine 10 mètres qu'il se retrouve dans le fossé, le cul dans les orties. Vexé, il jure. « Ah, bon Dieu, va-t'en au diable !» qui dit à la brouette. À peine il dit cela. La terre s'ouvre en deux. Le diable apparaît. Il regarde le père Jean et lui dit « Tu m'as appelé. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?» Père Jean, tout surpris, se met debout, il regarde le diable, et un peu hésitant, il lui dit « Bah, c'est que J'ai trouvé les trois cloches d'or. Ah, mais c'est bien. Tu connais les prédictions?
Oui, je les connais.
Mais je peux te les rappeler si tu veux. Tu sais que tu ne dois pas quitter le trésor des yeux, tu dois le laver à l'eau bénite, tu dois dire une messe à l'envers dimanche prochain et, d'ici à un an, ton âme me reviendra. Tu veux signer? Le père Jean n'a pas le choix. Il veut les trois cloches, il voulait rencontrer le diable, il signe. Le diable lui dit, tu vois, en un claquement de doigts, les trois cloches, elles seront dans ton presbytère. Et en disant cela, le diable y claque dans ses deux doigts. Les trois cloches se retrouvent au presbytère. Le diable donne rendez-vous au père Jean dans un an, à la chapelle de Pomainville. Il disparaît. Le père Jean rentre au presbytère. Il retrouve ses trois cloches. Il décide de les cacher. Avant de les cacher, il les lave soigneusement avec l'eau bénite. Arrive le dimanche, l'église est pleine. Le maire, sa femme, le prince et la princesse de Brooklyn, les notables et les paysans, les ouvriers. Tout le monde est là. Le père Jean s'approche et sans prévenir personne, sans dire quoi que ce soit, le père Jean commence à dire au nom du Saint-Esprit, du Fils et du Père. Et tout en faisant son signe de croix à l'envers, les paroissiens le regardent en faisant le signe de croix à l'endroit et ils ne comprennent pas. Sans donner aucune précision, le père Jean y commence à réciter toute la messe en latin à l'envers, sans laisser un temps de répit. Dans la paroisse, tout le monde est médusé. Certains disent, mais qu'est-ce que c'est que ce curé qui dit la messe à l'envers, il a perdu la tête. Mais comme c'est monsieur le curé, on n'ose pas l'arrêter. Le prince et la princesse et le maire se regardent. Les fermiers, par contre, eux, ils comprennent aussitôt que le père Jean, il a trouvé le trésor. Ils connaissent la légende. Ils ne disent rien. À la fin de la messe, tout le monde s'en va, levant les bras au ciel, mais n'osant pas demander au curé ce qui lui arrive. Le père Jean rentre au presbytère. Il est content. Il est rassuré. Les fermiers, quant à eux, à peine ils sont sortis de l'église, ils se retrouvent à la ferme de la Boise. Et convaincus que le père Jean a trouvé le trésor, ils réfléchissent à une idée pour aller visiter le presbytère dans la semaine. Une fermière leur dit « C'est pas compliqué, je vais aller le voir, je vais lui dire que il faut qu'il aille à la ferme de Beaumont, tout là-haut dans le pays, que la vieille tante est malade, mourante, qu'il faut qu'il aille lui donner les saints sacrements, et pendant qu'il ira, avec le temps que ça lui prendra, vous, les hommes, vous irez fouiller le presbytère. » Prenez-vous brouette, parce que les cloches vont être lourdes. 3 jours plus tard, la fermière se rend chez le père Jean. Elle lui explique qu'elle vient le chercher pour qu'il vienne donner les saints sacrements à sa vieille tante qui habite la ferme de Beaumont, qui est mourante. Le père Jean prépare ses affaires et ensemble, ils prennent le chemin à pied. À peine ils s'en vont, les fermiers s'approchent du presbytère, ils entrent. Ils fouillent toutes les pièces, ils vont dans la cave, ils montent au grenier. Aucune trace des trois cloches d'or. Ils regardent dans le jardin, rien. Ils se disent peut-être qu'il les a cachées dans l'église. Ils visitent l'église, rien. Quand le père Jean revient, il s'aperçoit tout de suite qu'il a eu de la visite. Certains objets ont été déplacés, n'ont pas été remis à leur place. Il connaît parfaitement l'ordre de son propre presbytère, sa propre maison. Il appelle le fermier et la fermière de la ferme de la Boise et il leur exprime ses soupçons. Il leur dit « Vous avez dû me jouer un tour. À Beaumont,
La tente, elle n'était pas mourante du tout. Et puis dans le presbytère, j'ai vu que des objets n'ont pas été remis à leur place. Vous savez? Le fermier et la fermière baissent les yeux. On ne raconte pas d'histoire à monsieur le curé. Le fermier lui dit, mon père, vous avez dit la messe à l'envers dimanche dernier, on a compris que vous aviez trouvé le trésor. Et nous, on est d'Ocagne. On était là avant vous. On a le droit à notre part. Hein? C'est un trésor qui appartient au village. Père Jean les rassure. Il leur dit, oui, j'ai trouvé les trois cloches d'or. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas les garder pour moi. Mais vous savez, les prédictions disent que celui qui trouve le trésor, oh oui, on sait, mon père, il meurt dans l'année. Eh ben, vous voulez mal barré, mais on pourra peut-être vous aider. Le père Jean leur dit, je sais pas, je réfléchis. Il y a un des fermiers qui le regarde et qui lui dit, mais elles sont où les cloches? On voudrait les voir, nous. Le père Jean, il sourit et leur dit, elles sont dans le puits, allez les chercher. Aussitôt, les fermiers se précipitent avec les fermières au puits. Ils attrapent la corde, le crochet, et ils remontent la première, puis la deuxième, puis la troisième. Les cloches sont magnifiques, tout en or. Jamais ils n'ont vu un tel trésor. Ils s'imaginent déjà retaper leur ferme, grandir leur troupeau de vaches, avoir une vie meilleure. Le père Jean leur dit passez vite. D'abord, il faut résoudre mon avenir avec le diable. En secouant une des cloches, un des fermiers dit au père Jean, mais il n'y a pas de pièce d'or. Dans la légende, c'était écrit qu'il y avait de la pièce d'or. C'était dit qu'il y avait des pièces d'or. Père Jean dit, en effet, je n'ai pas trouvé de pièce d'or, mais vous pouvez regarder, il y a des lettres, des parchemins. C'est écrit en latin, pour ceux qui savent le lire. Parmi les fermiers, il y en a un qui savait lire le latin. Les papiers étaient un peu humides. Ils avaient pris un peu l'eau. Et en les feuilletant, le fermier voit que un des papiers n'est pas un manuscrit, mais une lettre. Il commence à lire. Et tous sont très surpris. C'est écrit « À ceux qui trouveront le trésor une deuxième fois, sachez que moi, Père Gatien, je l'ai trouvé. Quand je l'ai trouvé, je n'ai pris que les pièces d'or. Je n'avais pas assez de force pour pouvoir m'occuper des cloches. Mais j'ai surtout trouvé une manière de déjouer le diable. Alors, quand le curé, car il faut que ce soit un curé, sinon vous perdrez tout, retrouvera le diable, qu'il le laisse prendre son âme. Et quand le diable aura l'âme dans les mains, qui lui disent des mots gentils, des mots doux. Et à ce moment-là, vous verrez, le diable, il ne pourra pas l'emporter. » Oh, ils sont tous surpris. Le père Jean, qui a tout écouté, qu'on n'a pas perdu un mot, se sent rassuré. Il dit au fermier, « C'est la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec le diable. » Pour l'instant, les cloches, elle reste au presbytère, et quand j'en aurai fini avec lui, je vous promets, nous partagerons. La semaine suivante, le soir d'anniversaire, vers 23 h, le père Jean, il a quitté le presbytère. Il a marché tout le chemin dans la nuit jusqu'à la chapelle, jusqu'à l'église de Pominville, à côté du cimetière. Le diable était là, sur le perron. Il l'a félicité, il lui a dit, « Oh, mais... c'est bien, tu es au rendez-vous, tu es à l'heure. Bon, j'espère que tu as pu profiter des trois cloches. Mais la prédiction est la prédiction. Je dois prendre ton âme. » Et sur ces mots, sans attendre, le diable, il n'a pas pris son âme, il lui a arraché. Oh, le père Jean, il n'a pas eu le temps de crier, que son corps est tombé par terre, inanimé, sans vie. Le diable, il avait l'âme du père Jean dans les mains. Elle s'est mise à briller. Elle était toute blanche. Il a eu un peu peur. Puis l'âme s'est mise à parler. « Oh, diable, que tu es bon, que tu es gentil, toi qui m'as permis de trouver les cloches d'or. Oui, regarde, mon âme, Elle te fera entrer au paradis, car c'est là que tu devras me conduire. » Et en entendant le mot paradis, en réalisant qu'il ne pourrait pas emmener cette belle âme en enfer, le diable s'est mis en colère, le diable s'est mis en furie. À l'instant même, il a lâché l'âme du Père Jean qui retournait dans son corps. Quant à lui, il a disparu. Père Jean, il a retrouvé ses esprits, il s'est mis les mains autour de la tête, il a bien senti que son âme était revenue. Il s'est relevé, il a repris le chemin. Quand il est arrivé au presbytère, les fermiers et les fermières l'attendaient. Ah, ils ont ouvert des bouteilles de cidre ce soir-là. Ils ont mangé du gâteau que les fermes avaient préparé. Et puis, ensemble, ils ont imaginé ce qu'ils pourraient faire de ces trois cloches d'or. D'accord, il y avait des fermes à retaper, il y avait des troupeaux à embellir, mais à la fin de la soirée, au milieu de la nuit, ils ont eu l'idée d'aller voir les chemins de fer français. Et avec la bonne somme d'argent, leur demander si la voie ferrée pouvait passer à Ocagne. Et quelques semaines plus tard, eh bien, ils ont reçu une réponse positive. La voie ferrée passerait à Ocagne. Il y aurait un passage à niveau, sur le chemin, qui descend au château de Cuy. Les travaux ont commencé. En même temps que les fermes ont été retapées, le chemin de fer s'est construit. Il y a une petite maison, là, à l'angle du chemin. C'était le garde et la gardienne, barrière. Le garde-barrière. Et c'est grâce à cette histoire que, plus tard, au XXe siècle, c'est Marie-Thérèse qui est devenue gardienne de la barrière. Et en ce temps-là, eh bien, on ouvrait la barrière pour laisser passer les gens. Et quand il n'y avait personne, elle était toujours fermée, par sécurité, car les trains ne prévenaient pas comme ils préviennent aujourd'hui. Et voilà à quoi le trésor d'Ocagne a servi. À faire passer la ligne Paris-Granville par le village. Souvent, une histoire en entraîne une autre. Après l'événement de la cloche, des trois cloches, il y a eu du remue-ménage dans le pays. Des jalousies, peut-être. Le chemin de fer ne s'est pas construit du jour au lendemain, il a fallu du temps. Un peu plus loin dans le pays, à l'est, il y avait le comte de Tertu. Il possédait beaucoup de terres. C'est un homme plutôt sévère, plutôt avare. Allez savoir si cette histoire des trois cloches, c'est ça qui l'a rendu de mauvaise humeur, mais il avait des terres qui étaient au-dessus du village d'Ocagne. Et sur ces terres, il y avait la source qui offrait toute l'eau et qui venait nourrir toute la rivière d'Ocagne qui traversait le bas du village. Et bien, le comte de Tertu, par sa mauvaise humeur, il a fait fermer la source. Quand les gens du village en sont aperçus, ça a été un grand désastre, un grand désarroi. Les gens du village sont allés voir le maire en disant « Monsieur le maire, il faut faire quelque chose, si on n'a plus d'eau, on ne va pas pouvoir vivre ici, on va être obligé de partir, on ne va quand même pas mourir là, à cause de ce comte. » Le maire embêté, il a écrit au préfet. Le préfet s'est rendu sur place, il a constaté, il a fait le nécessaire. Le comte de Tertu a été obligé de rouvrir sa source. Certainement qu'il a perdu cette terre qui est devenue publique ou bien du village. Quand le train est arrivé avec le passage à niveau, eh bien le garde-barrière, à chaque fois qu'un fermier venait chercher de l'eau à la rivière pour ses bêtes, et il était obligé de lui ouvrir, de refermer derrière lui, et puis de lui ouvrir quand il remontait, et de refermer derrière lui. C'était ça. Protéger les gens du village, des trains. Voilà ce qu'on racontait au pays d'Ocagne, autrefois. Autrefois.